Le titre de mon message ce matin, c'est « L'inattendu de Dieu ». Les textes de référence, c'est Matthieu 14, versets 21 à 36, Marc 6 en parallèle et Jean chapitre 6, qui nous disent la même histoire. Et on sait que dans la parole de Dieu, vous aurez l'occasion à la maison tranquillement de relire tous les textes en parallèle. Mais juste pour planter un petit peu le décor, voilà que les disciples sont appelés par Jésus et ils vont vivre une vie assez enthousiasmante parce qu'ils vont assister à un certain nombre de miracles, ils vont assister à un certain nombre d'actes extraordinaires. Et voilà que, entre autres, ils vont assister à la multiplication des pains dans ce chapitre 14 de l'évangile de Matthieu. Et voilà que... Ensuite, un peu plus tard, la foule va reconnaître Jésus de l'autre côté du lac et ils vont appeler tout le monde. Et comme on a entendu ce matin, le témoignage que Jésus-Christ est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Et lorsqu'on entend ces témoignages-là, on a envie de partager l'évangile, on a envie de dire à ceux qui ne connaissent pas Christ, viens, ça vaut le coup de connaître Jésus. Mais entre ces deux épisodes, j'ai failli appeler ce message la parenthèse inattendue ou l'inattendu de Dieu, voilà que les disciples vont vivre un temps difficile. Ils vont être secoués. Et ce passage-là, on le trouve à partir du verset 22. On peut lire ensemble le texte de Matthieu 14. Il est dit aussitôt après, donc aussitôt après la multiplication des pains et des poissons, voilà que il y a quelque chose d'assez étrange. Jésus va obliger les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Voilà, ce n'était pas des cris de joie, hein, comme ce matin. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Et ensuite, les versets plus tard, 34 à 36, eh bien, voilà qu'ils vont continuer à suivre Jésus dans une dynamique de guérison, etc. Ils vont être, j'allais dire, avec les foules. Je voudrais m'arrêter sur cet épisode. Et le thème, c'est de se dire, mais quelle est la signification d'oser croire Dieu, le risque de la foi et ses conséquences? Le thème, c'est ça. On voit dans le contexte, vous connaissez un peu la géographie du Nouveau Testament, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a tellement d'activités. Hein, Marc nous dit au chapitre 6, voilà qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui vont. Il y a une telle activité que finalement, ils n'ont plus le temps de manger. Et Jésus, dans, j'allais dire, la conscience de la mission qu'il avait et en même temps, la mission de prendre soin de ceux qui étaient avec lui, a dit, écoutez, on va prendre un temps de repos. Parce qu'il y a trop de choses qui se font. Donc, ils vont prendre une barque, et vous avez ici quelques épisodes. Ici, vous avez le lieu de la multiplication des pains. Mais auparavant, ils étaient sur la côte ouest. Et sur la côte ouest, voilà que beaucoup de choses se passaient, et Jésus dira, mais allez, on va prendre du repos. Ils traversent le lac, et puis il y a une autre raison aussi pour laquelle Jésus avait conscience que c'était le temps de bouger, c'est que Jean-Baptiste venait de se faire décapiter. Et voilà que Hérode commençait à fixer les regards sur Jésus en disant « Mais n'est-ce pas Jean-Baptiste qui est ressuscité ? » Sous-entendu, si c'est lui, on va encore lui couper la tête. Donc, ils décident d'aller sur cette côte est. Et quand ils arrivent, on voit ça dans Matthieu 14:14, voilà qu'ils sortent de la barque et ils pensent être tranquilles. Mais il y a une foule qui les attend. Et cette foule-là, quand Jésus voit cette foule, la Bible nous dit qu'il fut ému dans ses entrailles pour elle. Alors que naturellement, la priorité aurait été de se reposer, Jésus, lorsqu'il voit les besoins, lorsqu'il voit les cœurs, lorsqu'il voit la détresse, le cœur de Dieu est ému de compassion et a le désir d'agir en priorité. Et voilà qu'ils vont commencer, c'est là l'épisode de la multiplication des pains. Et dans le texte que nous avons lu, dans Matthieu 14, on se rend compte que Jésus va faire quelque chose d'étonnant. Mais pour bien comprendre ce que Jésus fait, à savoir que aussitôt, il va obliger ses disciples. Vous avez la même Bible que moi ? Est-ce que vous avez les versions différentes, mais est-ce que c'est ce qu'on lit dans la parole ? Voilà que d'un seul coup, Jésus va obliger les disciples à monter dans cette barque, et qui plus est, lui ne rentrera pas dans cette barque. Imaginez les disciples qui ont vu la multiplication, lorsqu'ils ont vu ce qui était en train de se passer, ils ont pu être enthousiastes de cela. Et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant de lire les évangiles en parallèle, c'est que dans Jean 6, on apprend un détail important, c'est que la foule qui a assisté au miracle a décidé de prendre Jésus de force pour le faire roi. Et Jésus, lorsqu'il voit cela, il sait que ce n'est pas le plan de Dieu, il va obliger ses disciples à monter dans la barque et leur dire « Allez de l'autre côté ». Et j'imagine les disciples en se disant mais Jésus, tu es sûr de ce que tu fais ? Ils sont en train de te faire roi. Et puis, peut-être avec un peu de chance, nous, on sera les premiers ministres, on sera les ministres avec toi. Mais c'est une super opportunité, non ? C'est étrange, Jésus, que fais-tu ? Alors, ils vont partir. Jésus va renvoyer la foule chez elle. Et la Bible me dit que Jésus va monter sur la montagne tout seul. Et sur cette montagne, il va avoir ce cœur à cœur avec le Père. Et ça nous parle parce que il aurait pu être honoré par cette foule. Il aurait pu être proclamé roi. Mais le plan de Dieu, c'est pas un plan humain, c'est pas un gouvernement humain, c'est pas une reconnaissance humaine. Il préfère venir vers le Père et recevoir la reconnaissance du Père, recevoir l'orientation du Père, l'orientation de Dieu. Parce qu'il a compris, pour nous c'est un exemple, que c'est ça qui est le plus précieux. Que pense Dieu sur notre vie ? Peut-être des fois on a ce manque d'honneur ou de reconnaissance dans notre travail, quelquefois dans notre famille. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu et qu'on entend sa voix, parce que nous sommes ses enfants, y a-t-il des enfants de Dieu ce matin dans la salle ? Eh bien Dieu veut t'encourager et te dire « mais tu es précieux, tu es un enfant de Dieu, quel que soit la circonstance dans laquelle tu es. » Combien de fois on a été dans des situations un peu compliquées, et c'était compliqué et encore plus compliqué jusqu'au moment où on s'est véritablement approché de Dieu et qu'on a entendu sa voix nous dire « mais t'inquiète pas, je suis en charge, je suis là. Tu es mon enfant, je prends soin de toi. » Ça vaut tout l'or du monde. Amen. Alors, ce qui est encore plus étrange, c'est que c'est Jésus qui va obliger les disciples à monter dans une barque et il les envoie quasiment dans la tempête. La Bible me dit que, alors que Jésus est sur la montagne et qu'il va passer une partie de la nuit à prier, les disciples vont passer la majeure partie de leur temps à quoi faire ? À ramer. Mais pas ramer avec un beau soleil, comme sur le lac Léman ou en été, c'est absolument superbe. Hein. Là, ils sont dans la barque, ils vont d'est en ouest et ils commencent à traverser une tempête. Une tempête. Et j'imagine qu'ils ont dû quand même se poser des questions par rapport à cela. Parce que c'est le plan de Dieu, c'est Jésus qui les a envoyés sur cette barque. Et voilà que, alors qu'ils sont en train de ramer depuis entre 4 et 6 heures, la Bible me dit qu'à la quatrième veille de la nuit, Jésus va les rejoindre d'une manière inattendue. Est-ce que quelqu'un attend l'intervention de Christ ? Est-ce que quelqu'un attend l'intervention de Dieu? Et quelquefois, on a le sentiment que, alors qu'on le sert, alors qu'on l'aime, alors qu'on fait tout notre possible pour le suivre, voilà qu'on peut être dans des situations, comme on a entendu, merci pour les témoignages, dans des situations qui sont inexplicables. Et à un moment donné, on peut même perdre espoir de se dire, mais où est Jésus? Est-ce que c'est vraiment opportun pour Jésus de rester sur la montagne alors que nous sommes dans la tempête et qu'on risque de se perdre? Et voilà que l'inattendu arrive. Voilà que Jésus choisit le raccourci. Il aurait pu faire le tour du lac, mais il choisit, la puissance sur la poussée d'Archimède. Et voilà que la Bible me dit que c'est la quatrième heure, la quatrième veille de la nuit. Donc ça veut dire que voilà, c'est entre 3h et 6h du matin. Et à ce moment-là, vous savez, lorsqu'ils traversent le lac, ils vont en direction d'est en ouest. Et donc ils sont à l'opposé de là où ils vont, ils rament. Et voilà que le jour commence un peu à se lever et ils aperçoivent une lueur, comme la lueur, un contour d'un homme qui commence à marcher, s'approcher de la barque. Et à ce moment-là, ils sont dans un état de fatigue, de détresse, d'incompréhension. Pourquoi Jésus a-t-il permis cela? Et voilà que dans la croyance de l'époque, on lit dans Apocalypse que, eh bien, il y avait des activités démoniaques qui venaient de la mer. Et quand on lit le terme fantôme, c'est étonnant, hein, voilà que c'est Jésus qui vient et il commence, au lieu de crier de joie, ils vont crier de frayeur. Et le terme grec, fantasma, dénote quelque chose qui, à partir d'une image qui se forme, de la réalité, va être déformée dans notre esprit. C'est une image qui se forme à partir de la réalité, mais qui s'écarte en même temps de celle-ci. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, d'une manière absolue, la présence de Dieu était là. Mais pour leur réalité, à cause de leurs difficultés, eh bien, ils avaient une image déformée de qui était Jésus. Et quelquefois, on vit aussi des temps difficiles parce qu'on a l'impression que notre image, notre compréhension de qui est Jésus, de qui est Dieu, peut être déformée par rapport à notre culture, par rapport à notre passé. On a entendu tout à l'heure cette parole qui parlait aussi des blessures de l'enfance. Quand je suis arrivé à Dieu, ou que Christ a touché mon cœur, j'avais une image d'un Dieu qui était très lointain, très très occupé, qui s'occupait de la création, etc., mais qui n'avait pas forcément le temps de s'occuper de moi. Et je me suis dit, de toute façon, ce n'est même pas la peine d'essayer de savoir qui il est, parce que de toute façon, je n'y arriverai pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré l'image déformée, il y a quelque chose qui va se passer d'une manière extraordinaire. Et je voudrais vous laisser quelques aspects de ce qu'est la foi. Voilà que Jésus arrive et qu'ils sont en train de crier, vous imaginez, de frayeur. Jésus arrive et la Bible me dit que soudain, au verset 27, Jésus va leur parler. Que Jésus leur dit-il? Qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples qui sont dans la barque? Qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? Il est dit, rassurez-vous, ayez bon courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. Dans une autre version, il est dit, vite, Yeshua leur parle et dit, courage, je suis. Et les mots grecs sont exactement les mêmes mots grecs, je suis, que l'on trouve dans Exode. Lorsque l'Éternel se révèle à Moïse. Et Moïse arrive, et d'une manière inattendue. Que fait-il? Il voit ce buisson qui ne se consume pas. Et l'Éternel Tout-Puissant, qui est transcendant, qui est inaccessible, qui s'est révélé avec le feu à la montagne, voilà que, d'une manière inattendue, l'Éternel va se révéler à Moïse. Et il va lui dire, écoute, je suis Yahvé, l'Éternel. Voilà que Dieu se rend accessible. Et Moïse reçoit cette nouvelle révélation et reçoit aussi un ordre de mission. Et je voudrais mettre ça en parallèle avec nos amis, les disciples qui sont dans cette barque. Et je voudrais aussi mettre ce parallèle, parce que c'est un texte qui nous parle pour nous aujourd'hui, de dire que si nous sommes dans une barque au milieu de la tempête, le naturel c'est de dire « Pourquoi je suis dans cette tempête ? Pourquoi je suis dans cette maladie ? Pourquoi, alors que je suis Christ ou Dieu, pourquoi j'ai cette difficulté au travail ? Pourquoi j'ai cette difficulté avec les enfants ?» Et naturellement, les disciples ont fait cela. Mais gloire à Dieu ! Dieu vient et il parle et il se révèle et il nous dit, même si tu es dans la difficulté et qu'il y a la tempête, je suis et là, Christ est là. Et la parole de Dieu est libérée par sa parole écrite, par sa parole aussi, le témoignage qu'on entend de ce qu'il fait. Et ça, c'est extraordinaire. Je dirais que pour nous, ce qui est important, ce n'est pas forcément la tempête, mais à ce stade-là, c'est d'entendre la parole de Christ. La parole de Christ qui suscite la foi. Je me souviens, Seigneur nous avait, après 15 ans de pastorat à Toulouse, nous avait parlé clairement d'un temps de formation en Angleterre, donc pour continuer nos études théologiques. Et puis, Dieu a ouvert des portes. Dieu avait parlé clairement à notre cœur. Il l'avait confirmé. On va en Angleterre. J'ai contact avec cette université de théologie donc en Angleterre. Et quand j'ai vu le programme, j'ai eu contact avec les responsables, le directeur. Et là, j'ai pris la mesure. C'est comme si Dieu me demandait de marcher sur l'eau. Je savais qu'il y avait cette parole, comme les disciples, à un moment donné, Christ les oblige à monter dans cette barque. Et d'un seul coup, j'ai été submergé par le doute, par mes limites, par rapport à la langue, par rapport au contenu, par rapport à notre famille, 4 enfants, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de quitter notre pays et d'aller là-bas ? Et alors qu'on était en train de louer Dieu dans la chapelle de l'université, de l'école biblique, voilà qu'il y a une parole, une prophétie qui est donnée d'une manière simple et qui disait, en substance, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets, ne te fais pas de soucis, mais je vais te donner la force d'arriver à aller jusqu'au bout. C'est comme si Dieu me parlait en direct. C'est comme si Dieu, à un moment donné, ouvre la fenêtre ou la porte et me dit, écoute, voilà moi ce que je pense, voilà ce qui est la réalité. Et voilà ce que Jésus fait exactement avec ses disciples. Il va leur dire, mais rassurez-vous, je suis, n'ayez pas peur. Alors, on va s'arrêter sur la réaction de Pierre. Quelle est sa réaction ? Que va-t-il faire ? Que dit-il ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? On sait que physiquement, il n'est quand même pas sûr que ce soit Jésus. Il entend simplement la parole. Et il dira quoi ? Regardez dans votre Bible. Il dira, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Qu'est-ce qui bouge Pierre à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ou dans son cœur ? Est-ce qu'il veut faire le beau ? Est-ce qu'il veut dire, moi je suis le meilleur, alors je vais leur montrer que je suis le meilleur ? Est-ce que c'est de l'incrédulité à votre avis ? Écoute, si c'est vraiment toi, prouve-moi par la capacité que tu vas me donner à marcher sur l'eau. Est-ce que c'est ça que Jésus dit ? Moi, longtemps j'ai compris ça en fait. Mais il y a un autre sens, et le contexte est assez intéressant. Parce que la Bible me dit qu'à un moment donné, dans Marc 6, il est dit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, le vent était contraire, la 4e veille de la nuit environ, Jésus va vers eux, il marche sur la mer. C'est le verset 48 de Marc 6. Mais chose étonnante, est-ce que Jésus va aller en direction de la barque ? Nous, dans notre logique, on aurait pu dire, mais Jésus vient vers eux, logiquement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller vers la barque, il va monter dans la barque, il va leur donner le petit déjeuner, il va leur dire « Tout va bien maintenant, je suis là ». Mais en fait, la Bible me montre qu'il voulait les dépasser. Il voulait les dépasser. Et Pierre, lorsque, après ses heures de fatigue, il a commencé à réaliser que finalement, être loin de Dieu, ce n'était pas une bonne idée. Être loin de Dieu, être loin de Christ, finalement, c'était encore plus compliqué. Et à un moment donné, lorsqu'il entend la voix de Jésus, il dira, alors, si c'est toi, alors ordonne que je vienne. Puisque c'est toi, ordonne ce miracle. C'est un peu comme un ami qui vous propose quelque chose qui vous paraît un peu périlleux, mais vous lui dites, bon, puisque c'est toi, je te connais, je te fais confiance, alors j'y vais. Qu'est-ce qui nous permet d'aller dans ce sens-là? La réponse de Jésus ne va avoir aucun reproche. Jésus lui dira, écoute, ne me tente pas, ne sois pas incrédule. Et il ne lui fait aucun reproche. Il va lui dire, viens. Devant la demande de Pierre. Et ce point de la foi, pour moi, ça me parle. Parce que la foi m'amène à vouloir être proche de Dieu et avoir ce désir de le suivre. Lorsque j'entends la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une belle parole, ce n'est pas simplement quelque chose qui va me faire du bien, mais elle suscite en moi le désir de m'approcher plus près de lui. Elle va susciter en moi, elle va provoquer en moi ce désir de finalement être près de lui, le suivre, suivre ses pas, faire ce qu'il a fait, annoncer la bonne nouvelle, être près de lui dans la prière, être près de lui dans nos choix de vie. Et c'est ce que finalement Pierre va exprimer ici. Finalement, il est très inconfortable dans ce bateau. On a souvent dit le bateau, c'était le lieu de confort. Et donc, finalement, il sort de sa zone de confort. Mais Pierre, il a compris deux choses, peut-être plus. Mais il préfère être avec Jésus sur l'eau plutôt que dans la barque sans Jésus. Et il a un avantage, Pierre, sur moi en tout cas, c'est que sa réflexion et sa prudence ne vont pas l'empêcher d'oser demander l'impossible. Parce que l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est un endroit où si vous et moi, on essaye de marcher, qu'est-ce qui va se passer? Y a-t-il des personnes qui ne coulent pas sur l'eau? On est humain. L'eau, c'est l'endroit inaccessible pour notre être naturel. Et Pierre va demander l'impossible. Il va demander à Jésus, donne-moi la capacité, s'il te plaît. Il a compris un autre principe, c'est le principe de l'autorité de Christ, l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité d'un mot de la part de Dieu et la situation peut changer. Un mot de la part de Dieu et on peut être transformé. Un mot de la part de Dieu et on peut être guéri. Un mot de sa part. Un mot de sa part. Et voilà notre ami qui ose, la foi authentique, a l'audace de lui demander des choses impossibles humainement. Mais on a besoin de bien saisir cela. C'est que notre vie chrétienne, finalement, c'est une marche sur l'eau. Pourquoi ? La marche chrétienne, qui peut naître de nouveau par ses propres forces ? Levez la main. Ce que l'on peut faire, c'est se repentir, c'est de choisir de croire, c'est de venir dans un environnement de foi. Mais si Dieu n'intervient pas, l'entendu aussi, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance... Lorsqu'on parle à quelqu'un et on témoigne de Christ, nous, on peut faire notre part. Mais qu'est-ce qui fait que la personne va se convertir? C'est l'amour de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. Lorsque j'ai de plus en plus conscience que l'Église, c'est un miracle de Dieu. L'Église, c'est vraiment le miracle. On marche sur l'eau. Alors, bien sûr qu'on peut rester dans le bateau. Bien sûr qu'on peut essayer de faire des choses. Mais la réalité, c'est que nous avons besoin finalement de réaliser que nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne par nos propres forces. Alors, Jésus lui dira, viens, et que se passe-t-il? Que fait-il, notre ami Pierre? Oui, que fait-il? Est-ce qu'il lui dit, écoute, Jésus, tu me dis de venir. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire de quel côté du bateau je pourrais sortir? Est-ce que tu peux m'expliquer si jamais, par exemple, je commence à partir, est-ce que tu peux me donner la méthodologie? Est-ce que tu peux me faire un cours en 10 leçons? Comment sortir du bateau? Et c'est là que Pierre a un avantage. C'est que son cœur, son désir d'être près de Christ et cette conscience que si Dieu nous demande quelque chose, il va nous donner la force de l'accomplir. Amen. Et c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il sort du bateau, et la Bible me dit qu'il le fait vite. Et quand il sort du bateau, finalement, la réponse, elle est très simple. C'est un choix binaire. Vous savez ce que c'est ? Ça veut dire soit il sort, soit il reste du bateau. Vous imaginez Pierre qui enjambe la barque, qui met un pied dans l'eau et l'autre pied dans la barque, et qui dit « Ok, je marche sur l'eau, mais en réalité, il est encore dans la barque. » Et des fois, il y a des amis qui font cela. Lorsqu'on entend l'évangile, on a envie de s'avancer, on a envie de sortir. Pour les appels, c'est pareil, à servir Dieu. Des fois, on a le désir, on a entendu même la parole de Dieu. Mais ce qui manque, c'est notre action. C'est de sortir du bateau. Et au bout d'un moment, parce qu'on a peur de sortir du bateau, à ce moment-là, on dit à Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Que se passe-t-il ? Je ne suis pas heureux, ça ne se passe pas bien, les choses ne changent pas. Le Seigneur nous dit simplement, je t'ai déjà parlé, sors du bateau et viens vers moi. Prends ce risque-là. Donc c'est tout simple en fait. On a dans l'armée, j'ai eu l'occasion de faire du parachutisme, j'étais dans les commandos, et quand on est dans l'avion, on a tout le barda, on a été équipé, on a été entraîné, on a eu tous les cours du monde, des théoriques, on a vu toutes les possibilités d'accidents, etc. On a beau avoir eu toute la formation du monde, l'équipement parfait, l'avion qui vole, le kérosène, tout va bien. Mais au moment où les portes s'ouvrent, là vous êtes seul. Et là, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous restez dans l'avion, ou soit vous sautez. C'est surréaliste. Et c'est un niveau de foi, il faut faire confiance au parachute. Ce qu'on nous apprend, c'est de regarder tout de suite si le parachute s'est bien ouvert. Parce qu'on a peu de temps pour ouvrir l'autre, si jamais. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est ça. La foi, c'est de dire, mais j'accepte de croire Dieu et je vais le mettre en pratique. Alors, voilà ce qu'il fait. Et je dirais, l'avant-dernier point, c'est que la foi implique un engagement complet. Ça veut dire que, finalement, même au sein de la tempête, l'endroit le plus confortable pour nous, c'est d'être au cœur de la volonté de Dieu. Je suis aussi pasteur, donc comme il a été dit, on a l'occasion de parler avec et de partager avec beaucoup de frères et sœurs. Et malheureusement, quand quelquefois on partage avec un frère ou une sœur qui, il y a 20 ans, 30 ans, a eu un appel, par exemple, pour la mission, un appel pour d'autres services, et qui, à un moment donné, pour un certain nombre de raisons, sans condamnation, ses frères ou ses sœurs ne sont pas sortis du bateau. Eh bien, c'est terrible. L'amour de Dieu est toujours là, la fidélité de Dieu est toujours là, la présence de Dieu est toujours là, mais il manque quelque chose. Parce que j'oserais dire, je laisse les pasteurs rectifier, si c'est, mais je dirais que finalement, soit on est sauvé, soit on est perdu. Oui, soit on est passé des ténèbres à la lumière, même si on est en chemin, mais à un moment donné, il y a besoin de se positionner. Et on a aussi besoin de se positionner par rapport au Seigneur, je parle à moi-même. Est-ce que je suis dans le plan et la volonté de Dieu ? Alors bien sûr que Dieu est un Dieu patient, Dieu peut ouvrir d'autres portes, bien sûr, bien sûr. Mais ma prière pour nous, c'est de se dire, mais la volonté qui est dans le ciel soit faite sur la terre. Quel est le plan de Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour cette église qui est un phare dans cette région ? Quel est son plan parfait, Seigneur ? Que ma prudence, que mon raisonnement, que mon savoir-faire ne m'empêche pas de sortir sur le lieu d'insécurité, mais qui est en réalité la sécurité de Dieu. Alors, ce sixième point de la foi, on arrive à la fin, la foi va impliquer une confiance concrète sur la durée. Et on sait que Pierre va faire cet exploit. Vous imaginez les autres disciples dans la barque, on peut s'imaginer. Imaginons qu'on est tous dans la même barque et que Pierre sort de l'eau et il commence à le voir marcher sur l'eau. Certains ont dû se dire, mais pourquoi j'ai pas demandé moi-même ça ? Ça doit être superbe. Et puis d'autres ont peut-être dit, bon, ok, ça c'est Pierre, voyons ce qui va se passer. On va voir si... Et effectivement, à un moment donné, la Bible me dit que Pierre a commencé à marcher sur l'eau, mais il a été distrait. Il a eu peur. Et à ce moment-là, un autre miracle arrive. Vous savez, c'est un peu comme dans les dessins animés. Vous avez déjà vu ça ? Il y a un personnage dans un dessin animé qui est en haut d'une tour. Il va dans le vide. Puis d'un seul coup, il a le temps de regarder sa montre, il a le temps d'avoir chaud, il a le temps de, avant qu'il tombe. Alors qu'en réalité, la vraie vie, c'est qu'on tombe tout de suite. La vraie vie sur la mer, si Dieu arrête d'intervenir, la poussée d'Archimède, même si c'est une réalité, mais il y a aussi l'attraction terrestre, on coule. Là, il a risqué gros, il aurait pu y rester, Pierre. L'autre miracle, c'est que la Bible me dit qu'il a commencé à couler. Ça veut dire qu'il n'a pas coulé d'un seul coup. Mais dans sa bonté, Dieu lui a laissé le temps de crier à lui. Et dans sa bonté, lorsqu'on est dans la tempête et les difficultés, gloire à Dieu pour ça, Dieu nous laisse le temps de crier à lui. Dieu nous laisse le temps de se tourner vers lui. Dieu nous laisse le temps et il patiente. Et des fois, ça dure une semaine, ça dure des mois. Dieu ne veut pas que nous coulions, Dieu ne veut pas que nous soyons abîmés. Mais Pierre a eu le bon réflexe. Et il a crié à Jésus. Jésus a tendu la main aussitôt, il n'a pas attendu. Évidemment, il lui a dit, écoute, bon, c'est vrai que tu as manqué de foi. Pour le coup, cette fois-ci, c'est vrai. Mais cela n'empêche qu'il a tendu la main. Et vous avez remarqué, Jésus ne dit pas que, en tout cas, il n'est pas dit dans la parole, dans les trois textes, qu'il a porté Pierre et qu'il l'a amené dans le bateau. Mais il lui a tendu la main pour qu'à nouveau, il ait la confiance de marcher sur l'eau. Dieu ne veut pas nous porter pour qu'on soit des invertébrés, mais Dieu nous fait confiance, assez confiance pour nous permettre l'épreuve et pour nous permettre de se tourner vers lui pour que nous puissions nous-mêmes crier à lui et qu'il nous communique la force. Le cœur de la compréhension de ce texte, je vous le laisse, c'est finalement ce qui se passe à l'issue de cette épreuve. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas encore remarqué. On l'a lu tout à l'heure. Jésus va monter dans la barque avec Pierre. Le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Dans l'épreuve, la grâce de Dieu nous permet d'en sortir. Pourquoi ? Pour que nous puissions avoir une nouvelle révélation de qui il est. Une nouvelle compréhension de notre Dieu. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, notamment financiers. Dieu a permis un jour, en tout cas une année même, que nous soyons dans la difficulté financière. Et en même temps, c'était en Belgique, on était étudiants encore, il y a longtemps, dans l'école biblique. Et voilà que tout s'est fermé. Je pensais que je pourrais trouver un travail, etc. Tout s'est fermé financièrement. Et ça a été une épreuve. En même temps, on apprenait la Bible, on apprenait la communion fraternelle. Et je disais au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Tu as dit que tu pourvoyais, tu as dit que tu ferais cela. Et pour moi, ça a été en même temps une bénédiction extraordinaire, ce temps en Belgique, et en même temps une épreuve extraordinaire. À l'issue, Dieu a pourvu miraculeusement. Il a permis, trop long pour vous dire, mais Dieu a pourvu. Ce que cela a fait dans mon cœur, après, c'est de dire, mais j'ai cette conviction que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problème après, mais la façon dont on aborde les problèmes sont différents. Parce qu'il y a une confiance en Dieu qui est descendue, en disant, Seigneur, si c'est toi qui envoies, c'est toi qui pourvois. Et là, on pourrait en raconter aussi. Mais regardez Marc 6, et je finis avec cela. Quand ils montent près d'eux dans la barque, 6 au verset 51, le vent tombe. Ils étaient extrêmement stupéfaits, ça on peut le comprendre, parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Et une autre version nous dira qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Vous avez ça dans la Bible ? Leur esprit était bouché. Étonnant, hein ? Voilà que Jésus utilise un temps compliqué, pas pour leur faire de la peine, mais parce qu'il voulait changer leur cœur. Parce qu'il voulait ouvrir leur cœur à cette réalité. Pourquoi la multiplication des pains ? Mais parce que la multiplication des pains nous dit que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est celui qui a donné sa vie pour la vie. Il est le pain de vie. Ils n'avaient pas encore compris cela. Et au travers de l'épreuve, eh bien, le Seigneur a ouvert leur entendement, ouvert leur compréhension au travers de la difficulté. Et je voudrais simplement vous laisser quelques questions. Quelle est notre barque, confort ou inconfort, de laquelle Dieu nous invite à sortir? Quelle est la parole de Christ pour notre situation précise? Qu'est-ce qui nous fait peur aujourd'hui et qui nous fait couler? Est-ce que j'ai besoin d'être sorti de l'eau aujourd'hui? Alors on peut crier à Dieu. Et vous avez une équipe de responsables qui peut prier aussi pour vous. Qu'avons-nous appris de lui et de notre mission au travers d'expériences difficiles et d'abandon de Dieu? Je vous laisse ces questions.